Alors, bonjour Likam.
Bonjour Dounia.
Bonjour, bienvenue à Dounia Reçoit, donc l'émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve, donc l'émission en ligne. Et on te reçoit aujourd'hui pour ton dernier roman qui est paru cet été en 2023, mais qui est encore tout frais finalement, qui s'appelle Visite chez La Volte. Il est chez La Volte. Donc je le montre, j'enlève mon petit post-it. Donc c'est un livre qui est très très original dans le très bon sens du terme hein, et dont on va parler. On va aussi parler de ce que tu fais, de toi aussi, de ton écriture. Donc on a une heure ou un peu plus suivant ce qu'on aura à se dire. Donc
Super, ravie d'être avec toi, d'avoir été invitée.
Bah écoute, c'est un plaisir, hein, surtout que j'ai eu l'occasion d'acheter le livre en vrai, donc d'aller dans une librairie où j'ai pu te rencontrer. Donc c'était vraiment bien pour parler d'une façon un peu familière. Donc tu es novelliste, romancière, mais tu es aussi comment dire, tu mènes des ateliers d'écriture, donc tu fais écrire d'autres personnes, tu écris avec d'autres personnes, tu es aussi scénariste d'exposition et j'ai lu dans ta fiche que tu te définissais aussi comme une design, quelqu'un qui fait de la design fiction,
Oui,
fiction, tu nous
oui.
expliqueras. Tu dans ce livre, y a beaucoup de sujets qui vont sortir, qui sont très intéressants, mais d'abord, en gros, on peut dire qu'on parle beaucoup d'écologie, de la terre, et puis aussi de la différence. Voilà, donc je veux juste dire qu'en passant, enfin, en passant, en 2016, tu as eu le prix Bob Moran pour une nouvelle, oui, qui
Une
s'appelle
novella.
Novella. Donc c'est un texte assez long, Azulon,
Azulone, j'ai dit moi-même,
Azulon,
on
d'accord.
prononce comme on veut.
Azulon, tu as écrit 7 romans, une quarantaine de nouvelles. Donc, tu as une belle
Oui.
carrière d'écrivaine derrière toi. Donc, je vais te passer la parole pour que tu te présentes, tu dises un peu ce que tu fais. S'il y a des choses qui t'ont marqué, quel courant littéraire, cinématographique, bédéiste, manga ont pu te marquer dans ta propre formation littéraire, si je puis dire. À toi, là, j'arrête de bavarder. Allez.
Comme tu l'as dit, je suis romancière et novelliste. J'écris de l'anticipation, c'est-à-dire de la science-fiction, mais avec, on va dire, un laps de temps vers l'avenir qui est de maximum une cinquantaine d'années. Mes thèmes de prédilection, c'est l'intelligence artificielle, l'écologie et ce que j'appelle la neurodiversité, mais la différence est un mot qui est aussi intéressant. Ce qui m'a amené à la science-fiction, c'était il y a très longtemps. J'arrivais pas à lire des livres. À mon époque, on devait lire la Bibliothèque rose ou la Bibliothèque verte. Et je m'ennuyais fortement et je pensais qu'en fait j'aimais pas lire. Et un jour j'étais à la bibliothèque municipale et la bibliothécaire m'a dit bah va du côté des adultes et regarde ce qu'il y a, il y a peut-être des choses qui t'intéresseront. Et je suis tombée dans le rayon science-fiction et j'en suis jamais sortie en fait. Et j'avais 11-12 ans et j'ai découvert que j'adorais lire, c'était juste que j'avais besoin d'une littérature qui me parlait en fait. Et donc mes
Et
auteurs,
oui.
j'ai commencé le roman de science-fiction qui m'a vraiment interpellée, bouleversée, même c'est Dune de Frank Herbert. Je l'ai lu en 84, je crois, j'avais 14 ans, donc c'était
Oui, une belle lecture.
oui, un bel édifice. Après, les auteurs qui m'ont marqué, c'est surtout Philip K. Dick. Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick pour ses thèmes, et c'est l'un des auteurs en science-fiction qui parle le plus justement de neurodiversité, c'est-à-dire de gens qui pensent un peu différemment. Ursula K. Le Guin pour ses univers, et dans les français, Heyerdahl. Heyerdahl qui est intervenu au tout début de ma carrière en relisant mon premier roman, qui m'a un peu tendu la main pour voilà, pour avoir une première publication.
Donc, c'est vraiment de la science-fiction, là, pour le coup, c'est
Ah oui, c'est.
les autres genres,
Alors,
non.
j'ai commencé en écrivant des nouvelles de fantastique, en fait, parce que je me sentais pas légitime pour écrire de la science-fiction. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait, ça me paraissait être trop pour moi, ou peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en science-fiction. Donc, comme il y en avait beaucoup en fantastique, j'ai commencé en écrivant du fantastique, en fait. Et c'est seulement une dizaine d'années que j'écris essentiellement de la science-fiction.
Mais oui, je voulais en parler en passant, effectivement, parce qu'il y a une dimension fantastique dans Visite. Une fois que tu fermes le livre, tu te dis, mais. Enfin, on en reparle après.
Mais
Mais
qu'est-ce qui s'est passé?
voilà, c'est étrange. Effectivement, il y a une sensation un peu comme du fantastique. Non, c'est un livre très riche.
Que dire d'autre que la science-fiction, pour moi, c'est un genre littéraire qui permet de dire plein de choses, de jouer avec des idées, de faire des expériences de pensée. Voilà, c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup dans la science-fiction, c'est la possibilité de, à travers les deux mots et si, de faire des expériences de pensée, d'imaginer des choses autrement et de voir comment elles s'agencent si on les bouge un peu. Enfin, c'est vraiment ce qui me passionne en tant qu'écrivaine de science-fiction.
C'est une dimension de liberté qu'on a peut-être moins dans d'autres genres plus.
Il y a la liberté et il y a la possibilité quand même dans un monde qui doit être crédible. Du coup, par rapport au fantastique, on a quand même des éléments qui doivent rester solides par rapport à la réalité. Mais on peut décaler, enfin bouger des curseurs, se dire que dans l'avenir, on prend une idée et puis on la pousse à son maximum et on voit ce qui se passe. Ça permet de faire des expériences de pensée et de réfléchir sur des thèmes de façon comment dire immersive, c'est-à-dire c'est pas faire un essai et se dire je vais réfléchir sur tel sujet de toute façon là c'est on prend la fiction on s'immerge dedans, on immerge le lecteur aussi et voilà on présente pas non plus une solution, on pose des questions, on propose des choses, enfin voilà, c'est pour moi c'est d'une richesse la science-fiction extraordinaire.
Et en fait, tu as, soit toi, la définition que tu donnes, toi, de ton approche de la science-fiction, et me rappelle un peu l'expression un peu plutôt enfin, anglaise, en anglais en tout cas, le fameux speculative fiction. Et c'est vrai que tu spécules en fait sur l'avenir et peut-être le fait d'écrire sur un avenir proche, parce que 50 ans finalement, c'est même pas une vie humaine. C'est plus, tu spécules quelque part. Je sais pas si tu es d'accord avec cette impression que j'ai.
Alors, je dis souvent qu'en science-fiction, on n'est pas des devins, quoi. On n'est pas là pour voir l'avenir et pour proposer des chemins vers l'avenir. Par contre, on est là pour essayer de questionner le présent à travers la fiction. Et si spéculer, c'est questionner le présent, oui, c'est de la
Oui, cette
spéculative
idée.
fiction,
Oui, c'est
oui.
cette idée. Peut-être que le mot spéculer en français est un peu devenu un peu trop économiste ou
Oui,
financier.
la spéculation en français, c'est un peu connoté.
Voilà, c'est effectivement pas le bon terme, peut-être. Alors, je voudrais bah, qu'on commence maintenant. Aussi, avant de parler de visite, je voulais aussi te demander si, en tant qu'autrice, rédactrice, finalement, tu avais une approche différente quand tu écris un roman et une nouvelle, puisque t'as, et même une nouvelle, hein, puisqu'en fait, t'as touché aux deux genres. Et je voulais savoir si dans ta démarche, qu'est-ce qui faisait la différence pour toi et pourquoi tu écrirais plutôt une nouvelle? Enfin voilà, si tu peux donner une petite idée.
Alors, ce qui fait la différence, pourquoi j'écrirais plutôt une nouvelle qu'un roman, c'est des commandes. En fait, si on me commande une nouvelle, j'écris une nouvelle. Si je me dis que j'ai suffisamment de matière pour écrire un roman, j'écris un roman. Je suis pas, je me sens pas comme une novelliste, c'est-à-dire que je suis plus à l'aise sur le marathon qu'est le roman. Et quand je dois écrire une nouvelle, en fait, je pense que je suis particulièrement laborieuse parce que je travaille comme si j'allais écrire un roman. C'est-à-dire que je construis mon univers en amont, mes personnages, mon univers, comme si j'allais écrire un roman. Donc ça me demande beaucoup de travail pour seulement
Oui.
écrire 50 000 ou 60 000 caractères. Donc je me sens pas forcément, c'est pas le format où je suis le plus à l'aise. Après, j'aime bien parce que ça me permet aussi de tester des idées. Il y a des choses qui m'intéressent et je me dis, ah, bah, je suis pas sûre que ça vaille le coup d'écrire un roman, d'investir autant de temps, parce que l'écriture d'un roman, pour moi, c'est environ 2 ans de travail. Donc voilà, une nouvelle, c'est 1 mois, on va dire. Et donc, la nouvelle, je me dis, bon, je vais tester ça dans une nouvelle. Et puis, si je vois que derrière, je tire un fil et il y a plein de choses, toute une pelote qui arrive, je m'en resservirai dans un roman.
Donc c'est oui, c'est
Mais
presque.
j'ai la même façon de travailler finalement quand même entre la nouvelle et le roman. Je construis mon petit truc un peu avant de me lancer dans l'écriture. Je ne suis pas une autrice qui se jette comme ça dans la page blanche sans rien. J'ai une phase de préparation et beaucoup de prises de notes. Ouais, beaucoup de prises de notes, des fiches. Et
Bien.
après, j'écris.
Eh ben alors, passons maintenant à Visite. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'histoire de ce projet? Parce que c'est un roman qui est un peu différent peut-être de ce que tu as déjà fait, qui est plus abouti dans l'idée. C'est un livre qui t'a sans doute demandé beaucoup de travail, puisque comme tu dis, 2 ans pour faire un roman, c'est
Visite, c'est même 3 ans, je crois, en tout.
3 ans. Voilà, bah écoute, parle-nous de Visite et puis après on entrera plus dans le roman.
Alors, si on me demande quand est-ce que j'ai commencé à réfléchir à ce roman, je pourrais même pas le dire. Je pense que les idées ont commencé à se mettre en place en 2011 ou 2014, je sais plus. Quand j'ai été voir Interstellar, en fait.
Ah
Le
oui.
film. En sortant, j'étais enthousiasmée par l'aspect scientifique. On nous avait bien vendu le truc comme quoi c'était scientifiquement, ça se tenait. Et puis au fur et à mesure des jours qui passaient, je me sentais de plus en plus mal. Et oublié un matin, je me suis dit, mais ils ont quand même abandonné la Terre, en fait. Ils n'ont rien fait
Oui.
en termes de réchauffement climatique. Et donc, je pense que Visite, il a commencé à prendre forme à ce moment-là, donc il y a une dizaine d'années, en fait. Et j'ai écrit plusieurs choses depuis, mais je gardais en tête cette idée d'aller chercher sur une autre planète la solution, la fameuse planète B. Cette idée me déplaisait, en fait. Et puis, il y a eu récemment tout ce que fait Elon Musk, qui veut aller coloniser Mars, voilà, tout ça, où je me dis, bon, d'accord, aller ailleurs, mais. Finalement, est-ce que ce ne serait pas plus facile de préserver la Terre plutôt que de terraformer Mars, qui est une planète morte, sans atmosphère, sans même de champ magnétique, pour la protéger des radiations? Ça veut dire que pour relancer le champ magnétique, il faut relancer le noyau de la planète. Enfin, c'est
Oui.
énorme, c'est à la limite de l'impossible, quoi. Ouais, je me dis, finalement, il y a des gens qui pensent que c'est plus simple ça. D'essayer de préserver la Terre. Voilà, c'est toute cette réflexion en fait qui est
Oui,
à l'origine de Visite.
je suis d'accord avec toi, c'est très étrange parce qu'évidemment tu quittes entre guillemets, un paradis, quelque chose pour lequel on est adapté, qui pour aller t'installer sur un désert de poussière et de...
Sur une planète complètement morte en fait.
qui n'a aucune pression. Oui, non,
Oui.
on ne sait
Il y a
plus
pas
trop
d'a
ce
il y
qui...
a très peu d'atmosphère, mais surtout le pire, c'est qu'il n'y a pas de champ magnétique, en fait. Et ouais, se dire que ça c'est. Alors, qu'on y aille pour la science, la connaissance, ça, au contraire, je reste une autrice de science-fiction. Je trouve ça sexy comme idée d'apprendre des choses et tout. Mais par contre, l'idée d'aller s'installer là-bas pour y vivre, alors que, et au cas où, en plus, la Terre deviendrait invivable, je me dis, pour sauver l'humanité, entre guillemets, je me dis, mais je crois qu'on n'a pas, enfin, tout n'a pas été pris en compte quand même dans
Non,
l'équation.
je pense que tu as tout à fait raison. Ça, en plus, ça n'a aucun intérêt parce que si tu brûles toutes les dernières ressources pour aller t'installer dans un endroit où tu n'as rien, mais bon, ça fait effectivement, c'est étrange, effectivement. Alors, donc tu es parti de là, et d'ailleurs,
Ouais,
cette thématique,
c'est parti
on
de
la
là.
voit de ton roman. Et je voulais te demander, on va commencer par parler de la langue, de ce que j'appelais la langue de la narration, parce que c'est la première chose qui saute aux yeux du lecteur finalement, hein, quand il ouvre ce roman, c'est que on a l'impression qu'on lit dans une autre langue. Comme je te disais, quand on a préparé l'émission, au début, je me suis rendu compte que mon cerveau se défendait, qui rétablissait les choses d'une façon mécanique. Et puis à un moment, c'était tellement fatigant que je me suis laissée aller et ça se lit, mais c'est très, très, très étonnant. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail d'abord sur la langue, qui est en fait un objet du futur? Je me suis dit, elle a.
Oui.
Je te passe la parole, je me suis dit, elle a. Elle a inventé une langue comme elle a inventé une société pour de science-fiction. Donc, vas-y, dis-nous un petit peu comment t'as fait parce que c'est
Bah,
vraiment.
je suis pas partie de l'hypothèse de Sapir-Whorf qui dit que notre langage façonne notre réel et notre perception du monde. Et donc j'ai imaginé une autre société articulée autour de la préservation du vivant et je me suis dit, au bout d'un moment, mais on est dans l'avenir, dans les années 2080, il a pu se passer plein de choses. Peut-être que le langage, il peut porter cette idée de la préservation du vivant, d'organiser une société complètement différemment. Et du coup, avec une autre langue, on voit les choses différemment, en fait. Et les gens sont différents dans leur façon de penser. Et donc, j'ai imaginé une grammaire qui soit écologique. Alors, je ne vais pas dire les règles de grammaire parce que avec mon éditeur, on s'est posé la question de savoir si on mettait un Becherel à la fin du roman ou pas. Et finalement, on s'est dit que non, d'autant que l'un des thèmes du roman, c'est le changement de paradigme. Pour mettre le lecteur tout de suite devant le thème, c'est-à-dire devant un changement de paradigme, il lui faut rien, il faut pas d'aide en fait. Et donc c'est à lui de faire un petit effort au début, de lâcher un peu prise en fait. Et petit à petit, enfin moi c'est ce qu'on m'a rapporté, petit à petit on comprend un peu les règles et ce qu'elles veulent dire. En arrière-plan de la lecture, en fait. Mais ça a été beaucoup de travail, en fait, cette grammaire, parce qu'il fallait qu'elle fasse sens. Toutes les règles ont un sens, en fait, de cette grammaire. Et il fallait qu'elle soit suffisamment exotique pour qu'elle perturbe, mais suffisamment en rapport avec la grammaire actuelle pour que petit à petit, on puisse se lâcher et dire oui, j'ai compris. Grosso modo, là où ça se joue et je peux lâcher quoi. Mais ouais, c'est une question d'équilibre en fait, qui a été compliquée. Et les règles en elles-mêmes, je me suis inspirée un peu d'espéranto, un peu d'anglais, un peu de ci, un peu de là, et j'ai fait un patchwork pour créer cette langue en fait. Avec un neutre, si on peut dire l'une des règles de grammaire, c'est qu'il y a l'établissement d'un neutre. Tout ce qui est de l'ordre de la création humaine, du concept, les objets sont neutres. Tout ce qui est de l'ordre du vivant est féminin, et puis après, il y a le masculin. Voilà, en gros. Je t'aime.
Et pratiquement, tu as fait un Becherel avant de commencer à écrire, ou c'est venu au fur et à mesure que tu écrivais?
J'ai fait plein de tentatives de grammaire en fait. Donc j'avais écrit les trois quarts du roman et je réécrivais depuis le début avec certaines règles de grammaire. Avec mon éditeur, on voyait ce qui était trop compliqué à lire. Enfin voilà, ça a été plein de tentatives où j'ai réécrit complètement le roman en changeant la grammaire.
Ah oui,
Donc
effectivement.
oui, c'est pour ça que ça a pris 3 ans, 1 an de
Oui.
plus que d'habitude en fait.
Oui, parce qu'il a fallu déjà écrire la langue, enfin oui, inventer la langue.
Inventer la langue, écrire le roman. Alors le dernier quart, je l'ai écrit directement dans la grammaire, on va dire. Mais j'ai senti que mon cerveau résistait.
Ah
C'était
oui.
compliqué en fait d'écrire un premier jet dans cette grammaire. J'étais obligée de relire sans arrêt parce qu'il y avait des trucs qui passaient à l'as. L'ancienne grammaire revenait en rampant. Enfin, c'est. Oui, quand je me méfiais, moi, je trouve que tout de suite, ça demandait énormément de concentration, en fait, d'écrire. C'est comme écrire un peu dans une autre langue, quoi. Enfin,
Parce qu'en plus, il y a des mots on peut dire que tu les as inventés, mais on les comprend, mais qui correspondent à la technologie, à la technique peut-être de.
oui, parce que c'est une société. Où il y a encore qui est organisé autour du vivant, qui on en reparlera peut-être un peu plus tard,
Oui, bien sûr.
mais dans laquelle il y a encore, enfin il y a même beaucoup de technologies, une technologie très avancée, donc il y a plein de mots qui sont oui comme dans la science-fiction habituelle, c'est-à-dire que les technologies ont des noms, donc il y a plein de mots qui sont des mots liés à la technologie ou des mots qui ont un peu évolué. Des anciens mots qui ont légèrement évolué pour des raisons d'usage, en fait.
Oui, donc, et ce qui est étonnant, parce qu'il y a aussi un travail sur la syntaxe, ça t'a été obligé, effectivement, quand tu réinventes la grammaire, et à la fin du roman, quand la mission qui a été envoyée sur cette planète, les gens commencent à évoluer de leur côté, il y a des passages où il n'y a même plus de ponctuation.
Oui.
C'est aussi frappant. Tout à coup, les mots s'enchaînent, il y a plus de les phrases, on ne sait plus quand elles commencent, quand elles finissent, et on continue, quoi. On est porté
Bah,
par.
j'ai peut-être replacé un peu l'histoire du roman.
Oui, vas-y.
Donc, il y a une planète qui apparaît comme ça du jour au lendemain dans le système solaire. Donc, on est sur une société qui s'est réorientée vers la préservation du vivant, la préservation de la planète. Où il y a des choix qui ont été faits en termes de technologie, en termes de comment on s'organise, comment la société s'organise. Et tout d'un coup, il y a une planète qui arrive qui remet tout en question, en fait. Et c'est le changement de paradigme est là. Donc, il y a une mission d'exploration qui est envoyée sur la planète. Donc, on suit à la fois des gens sur Terre. Plusieurs personnes en fait, et les gens qui sont envoyés sur Citive, la planète qui est apparue comme ça de façon très étrange au sein du système solaire. Et oui, sur Citive, il se passe des choses. Alors quand c'est peut-être là que tu parlais du fantastique, effectivement, des choses qu'on comprend pas. Mais en fait, est-ce que pour moi, ça reste de la science-fiction parce que on comprend pas parce que bon, c'est pas faire spoiler trop que de dire
Non,
que
non.
la planète, il y a déjà quelque chose dessus. Ils arrivent, il y a déjà des créatures vivantes en fait, des espèces, des choses qui ressemblent à des arbres. Toute la question, c'est ils essayent de communiquer, on ne sait pas trop ce qu'ils font et tout. Toute la question, c'est comment face à une telle altérité, une telle différence, ça se trouve, enfin. Comment l'esprit humain réagit en fait. Et à un moment donné, effectivement, il y a un des personnages qui perd la ponctuation.
Alors, bah, écoutez, parle-nous de cette société qui à la fois a l'air ce qu'on appellerait agro-pastorale avec plein de guillemets, et en même temps au niveau de tout ce qui est virtuel, de tout ce qui est technologie, plus de la communication, 10 fois plus avancée que la nôtre. Et en fait, c'est un, comment dire, ce sont deux, c'est une société qui est étrange justement parce qu'elle a ces deux aspects. Donc, si tu pouvais un peu nous dire, parce que
Oui, pour moi,
voilà.
c'est une terre de contraste, en fait. Il y a à la fois, du coup, il a fallu, pour nourrir la population avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'agriculture. Alors, l'agriculture qui est très différente de la nôtre, c'est-à-dire qu'énormément de terres ont été rendues, ce qu'on appelle aux écos dans le roman, mais qui en fait qui sont redevenus sauvages, en fait, qu'on a rendu à la nature. Et les écums, les villes, se sont plus ou moins resserrées. Et il y a des espèces, les écobates, en fait, d'immenses structures qui ressemblent à des collines terrassées sur lesquelles on fait on cultive fruits et légumes pour nourrir les gens, en fait. Donc, c'est pastoral. Pas tout à fait, en fait, que ce que ça reste,
Agricole, disons.
ça reste agricole, mais c'est fait en ville, en fait. Enfin, c'est fait dans les coumes. Il n'y a pas cette différence entre campagne et ville. Il y a sauvage et coumes, en fait. Il y a écos et coumes. Et donc, une grande partie du temps des gens, c'est l'agriculture, et autrement, c'est la surveillance et la préservation des écos, c'est-à-dire des. De là où l'écume n'est pas, là où c'est la nature qui a repris ses droits, la nature sauvage. Donc, oui, donc ils sont très dans le recyclage, très dans l'utilisation de matériaux nobles, dans low-tech, pas mal, et autrement, oui, dans le maker, c'est-à-dire que c'est eux qui font eux-mêmes leur. À un moment donné, il y a un des personnages qui. Tous des écostats en fait, qui est un instrument qui leur permet d'analyser l'air, l'eau et de se tenir informés de l'état des écos alentour. Il doit le sien commence à moins bien fonctionner, donc il doit s'en refaire un, mais pour s'en refaire un, il faut qu'il récupère les pièces nécessaires pour le refaire et ça va lui prendre du temps en fait. Donc voilà, ils sont tous quand même dans une. Ils font eux-mêmes et on sent que les ressources sont très rationnées, très enfin rationnées, j'aime pas ce mot, mais gérées quoi, pour pas impacter trop la planète.
Oui, c'est effectivement une société où c'est l'anti-gaspille, quoi. On ne gaspille
Oui,
pas.
c'est entre. Non, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de. Tout est réutilisé. On voit qu'à un moment donné, ils utilisent tous les vêtements, tout est réutilisé systématiquement. Ils ont beaucoup moins de choses que nous, en fait, on s'en rend compte quand même. L'héroïne Néa et ses amis, ils ont quelques des choses, mais on sent que c'est des choses qui traînent de leurs parents. Voilà, ils sont très. Tout est gardé, en fait. Tout est conservé. Et tout est utilisé jusqu'à la corde. Jusqu'à ce qu'on puisse plus l'utiliser.
Jusqu'à l'usure complète. Et justement, et en parallèle, cette technologie du monde virtuel, je l'ai appelée ça un peu comme ça parce que j'ai pas trop su comment. En fait, il y a un autre, ils vivent sur deux plans presque. Je sais pas
Alors,
si.
pas tout le monde. C'est là où il y a une petite question dans le roman. Disons que l'un des personnages principaux, Néa, est handicapée, très handicapée d'ailleurs. Elle a un handicap moteur et un handicap intellectuel. Sa perception du monde est altérée. Elle voit des choses qui n'existent pas, enfin des espèces de petites choses qui sont partout dans son champ de vision et qui lui empêchent de très bien comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et elle porte une neuroprothèse qui lui permet de fonctionner normalement, de pouvoir marcher normalement et de pouvoir réfléchir normalement. Et comme elle est porteuse d'une neuroprothèse, elle travaille pour le Centre européen de recherche scientifique en tant qu'archiviste, en fait.
Oui.
Et les archives sont dans ce qu'on appelle le flux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui n'est plus basée, c'est une technologie quantique en fait. Donc, c'est difficile à expliquer du coup, parce que le quantique, on est sur un truc où le temps n'est pas forcément linéaire. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un peu
Oui,
flottantes.
ça se voit d'ailleurs dans plusieurs actions, quand il y a des choses des verbes et leur contraire, en fait. Il y a tout un jeu aussi qu'on laissera au lecteur la découverte.
Mais le fait qu'elle porte une neuroprothèse quantique, oui, fait que donc elle est moins handicapée que quand elle ne l'a pas. Mais par contre, sa perception est quand même différente de celle des autres, par le fait que le quantique, c'est à la fois oui et c'est à la fois non des fois. Enfin, du coup, il y a des flottements dans sa perception qui sont, pour moi, sont très intéressants. Mais du coup, voilà, c'est une société où il y a à la fois énorme, du low-tech et à la fois des technologies comme les penseurs quantiques et les neuroprothèses quantiques. Donc, oui, une terre de gros contrastes. Il y a des gens et on sent qu'il y a des gens qui n'ont pas. Le gouverneur, par exemple, Basile, il a un Kant, un penseur quantique, pour l'aider, mais on sent qu'il a pas très, il est pas très heureux avec ça. Donc il est obligé d'avoir un Kant parce que ses fonctions, c'est le gouverneur d'Europa, a priori, voilà, mais il n'est pas, c'est pas, s'il pouvait s'en passer, il le ferait bien, quoi. Et j'aimais bien l'idée aussi de qu'il y ait des gens, à la différence du téléphone portable ou de l'assistant, où tout le monde en a, en fait, j'aimais bien l'idée que dans ce futur, il y a des gens qui y a ces technologies pour des raisons parce qu'ils sont handicapés ou en fonction de leur métier, de leur fonction, et d'autres qui n'en aient pas besoin en fait et qui vivent très bien sans. J'aime bien cette idée de vraiment de contraste.
Oui, puis de certaines libertés finalement.
Oui.
Ouais. Parce qu'il y a ce thème justement de liberté qui passe dans le roman. Et c'est vrai qu'il y a un contraste entre notre époque contemporaine et ce futur, où avec notre vision, avec de voir cette société tellement gérée. C'est intéressant comment tu t'es servi aussi de cette notion de liberté pour la retourner finalement, pour en faire autre chose.
La liberté, c'est relatif, en fait. Est-ce que c'est la liberté que de détruire la planète? Est-ce qu'au nom de la liberté, on peut se permettre de détruire la planète et d'empêcher les générations futures de vivre leur vie? C'est une question qui est effectivement posée dans le roman. Et la réponse dans le roman, c'est que ils ont dû faire des petites concessions en termes de liberté, mais ils sont peut-être plus libres que nous finalement, parce qu'ils ne sont pas non plus aliénés par tant de choses, quoi. Nous, on est aliénés par plein de choses. Eux, ils ont leur aliénation, mais différente. Et c'est des choix en fait qu'il faut faire. Et j'ai écrit aussi Visite pour soigner mon éco-anxiété d'abord, parce que je souffre énormément d'éco-anxiété. Et à un moment donné, je me suis dit, quelle société permettrait de finalement, on va dire, limiter le désastre. Donc vraiment, c'est une société sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Mais je l'ai écrit aussi en réponse à tous les survivalistes, en fait, qui prévoient un effondrement de la société où tout le monde se retrouvera en guerre contre tous, quoi, et où il faudra se revenir à l'âge de pierre et se barricader chez soi. Dans Visite, la société a changé, mais il ne s'est pas effondré.
Mais tout à fait, oui, c'est d'ailleurs c'est plus rassurant qu'un énième roman type La Route, quoi, qui de toute façon les gens ne peuvent
Oui, je
être
voulais
que
justement,
mauvais.
oui, je voulais justement pas aller là parce que c'est ce qui me fait très peur en fait. Donc, je voulais imaginer une société qui ait réussi à se transformer démocratiquement. Et finalement, bon, on parle tout le long du roman. Alors, il y a un personnage qui revient, qui parle en ancien français, qui est une personne âgée, qui du coup se souvient du début du siècle, de notre époque, et qui raconte un peu que ça s'est pas passé forcément dans du velours, hein. Il y a eu le grand déclin, il y a eu des choses, des problèmes économiques, des guerres impérialistes. Enfin, donc d'ailleurs des choses qu'on voit dans, je pensais pas qu'on les verrait si tôt, qu'on voit dans un peu dans l'actualité. J'ai commencé à écrire Visite bien avant le début de la guerre en Ukraine, ou alors de la guerre en Israël, enfin en Palestine. Mais ça m'a, c'est quelque chose qui me fait très peur, moi, la résilience du système, la résilience de la capacité du système mondialisé à encaisser les chocs, quoi. Et voilà, je me suis dit, il faut que là, le gouverneur d'Europa, l'un des personnages, c'est le gouverneur d'Europa, qui gère donc l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, il est en contact avec les gouverneurs et gouverneuses des autres continents au sujet de cette mission scientifique qui part explorer Citive. Et donc, il y a vraiment une société qui est très, finalement, très organisée et avec un gouvernement qui, sans être un gouvernement mondial, il y a vraiment une solidarité, une comment dire, une coordination au niveau mondial pour préserver, enfin, de toute façon, pour préserver la planète et les écosystèmes. À part quelque chose de mondial, on voit pas ce qui est fait à un bout de la planète a des conséquences sur l'autre bout de la planète. Donc c'était
Oui,
ça aussi,
bien sûr.
voilà.
Oui. Mais justement, puisque tu parles de ça, j'avais noté ça, je m'étais noté que c'est un filet de texte contemporain qui, pour nous lecteurs, renforce justement l'étrangeté du monde créé dans Visite et qui est à la fois proche, familier et puis complètement différent. Et ça, je sais pas comment dire. C'est un peu le voyage dans le temps, mais à rebours, c'est-à-dire on arrive à lire une langue ancienne, finalement, qui est notre propre langue. Et c'est un jeu qui est assez surprenant dans
Oui,
je dis
c'est ça.
filet parce que ça revient, c'est
Oui,
tricoté, quoi, dans le roman.
cette voix-là est présente tout le long du roman. C'est une personne dont on sait pas, connaît pas trop l'identité. On comprend à la fin seulement qui c'est, et encore avec encore un peu de mystère. Mais ça m'intéressait, moi, de pouvoir présenter le point de vue de quelqu'un qui a connu notre époque, donc quelqu'un qui est très âgé, hein, parce que ça se passe en 2080. Quelqu'un qui a connu notre époque et qui est passé par la transformation d'avoir son point de vue. Et donc, à un moment donné, elle dit que si on lui avait présenté la société telle qu'elle est dans le roman, quand elle avait 25 ans, au début des années 2000, elle n'en aurait pas voulu, quoi. Ça lui aurait déplu. Et finalement, le présent lui va très bien. C'est juste, voilà, c'est le changement, en fait, qui est. Quand je disais tout à l'heure que Visite, c'est un roman sur le changement de paradigme, c'est un peu une mise en abîme. C'est-à-dire que eux, ils ont fait tous les changements nécessaires et ils se retrouvent devant une planète B. Ça les perturbe complètement. Il
Ah
y a
oui,
des gros. Il y a des gens qui deviennent fous, il y a des émeutes, enfin voilà, ça les perturbe vraiment. C'est simplement une mise en abîme de ce qu'on est en train de vivre, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de planète B, et il faut qu'on fasse des changements. Et on voit qu'il y a des gens qui deviennent climato-sceptiques, voire climato-dénialistes, maintenant, on dit. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, ne pas, ouais, d'être complètement dans le
Ne
déni.
pas savoir, oui.
Ça crée énormément d'anxiété, les jeunes sont déprimés, il n'y a jamais eu autant de maladies mentales. Enfin voilà, c'est aussi toutes ces questions derrière comment on gère la nécessité de changement. Je sais que pendant le roman, il y a la phrase de Gramsci qui m'est revenue souvent. Alors j'arrive jamais à vraiment m'en souvenir. C'est quand un monde qui tarde à mourir et l'autre, non, un monde qui se meurt et l'autre qui tarde à naître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et c'était justement cette idée de se dire que bah, il faut aider le monde, le nouveau monde à naître, pour éviter que surgissent les monstres. Et dans Visite, le désastre a été évité en tout cas.
Oui, c'est et c'est vraiment oui, c'est même poignant parce que cette voix justement qui passe et qui est finalement notre voix à nous, notre voix actuelle, et c'est assez poignant de voir que finalement il y a autre chose. La
Oui.
société telle qu'on la vit ou pourrait l'imaginer, c'est encore autre chose qu'on a. Finalement, c'est très fort, je trouve, dans le roman.
Oui, c'est moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est que le changement, ça fait toujours très peur, surtout si on ne sait pas comment il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous, on est un peu dans cette situation, en fait, c'est pour ça que je peux rappeler la phrase de Gramsci. Dans ce clair-obscur, quand on ne voit pas, quand on a un mur devant soi, on n'a pas d'horizon, la peur, bah, c'est là que, quand on a peur, que surgissent les monstres.
Tout à fait.
Et donc, la capacité de pouvoir imaginer quelque chose, de se dire, ben, on peut se transformer, on a la résilience, on a la capacité de le faire. Ben, rien que ça, ça enfonce le monstre sous, enfin, ça le muselle en fait. Et c'était vraiment moi, c'est ça qui me fait peur en fait. Je parlais des survivalistes de l'effondrement, mais ce qui me fait très peur aussi, c'est ce qu'on sent monter un peu en ce moment, c'est-à-dire oui, là, au niveau politique, il y a des choses qui me font très peur.
Oui, puis c'est mondial, hein.
Oui.
C'est mondial. En plus, c'est pas que chez nous, hein.
Et moi, je l'explique par moi, ça me fait peur, ça, mais j'explique ça par les gens qui ont peur et qui se replient sur eux-mêmes et qui ont besoin d'une idéologie forte, d'un homme fort pour se sentir en sécurité. Parce qu'en fait, ils comprennent plus rien au monde dans lequel ils sont, quoi. Et parce qu'on leur dit que la planète est abîmée, ils préfèrent dire non, c'est pas vrai, c'est pas le, c'est, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas d'origine humaine. C'est plus simple de se dire ça que de se dire on va se retrousser les manches et essayer de faire quelque chose. Et donc moi, je veux pas, je veux rester optimiste, quoi. Enfin, je veux me dire qu'on en a la capacité. Je garde confiance dans l'espèce humaine.
Oui, de toute façon, c'est un roman qui est optimiste.
Oui.
Je veux dire, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est
Non.
optimiste parce qu'il y a une solution qui est possible, il y a quelque chose qui est
Il y a une
imaginé.
solution. Oui, il y a une solution qui est possible. Et par contre, tout le monde, il n'est pas beau, gentil. C'est compliqué. Voilà quoi. Mais oui, il y a une solution et les gens, à part le personnage qui vient, qui est très âgé et qui nous raconte un peu l'histoire de comment ça s'est passé, et qui nous parle de nous en fait, les autres ont complètement oublié. Alors il y a l'ami de Néa qui se fait des réalités virtuelles dans le passé et qui est outré. À un moment donné, il se fait une VR, une réalité virtuelle dans un supermarché, un hypermarché, et il est complètement outré, quoi. Ça le choque complètement. Enfin, voilà, ils sont vraiment tellement ailleurs que notre façon de vivre est devenue limite tabou. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas comment on vivait, quoi. Et c'est, oui, c'est ça qui m'amusait aussi de me dire, de regarder un peu vers l'arrière, de faire qu'il y ait des personnages qui soient capables de regarder vers l'arrière, ce qu'on voit jamais, ce qu'on voit rarement en science-fiction en fait. Ça m'a
Oui,
plu
c'est
cette
vrai.
idée de réintégrer un peu de présent dans la science-fiction.
Oui, ça permet d'avoir aussi des perspectives, enfin des
Oui,
perspectives dans le
ça
sens,
remet en,
voilà, oui.
ouais. Et j'ai beaucoup travaillé sur les générations aussi. Il y a des personnages de tout âge. Et j'aimais aussi du coup avoir des anciens qui aient connu notre monde et qui aient eu à faire tout le chemin pour arriver voilà, à la société des échos et des écoumes.
D'ailleurs, puisqu'on est dans les personnages, est-ce que tu peux me parler un petit peu d'un personnage qui est vraiment très étonnant? C'est un personnage de créatrice, c'est Paloma, qui est donc comédienne et qui cherche à écrire son nouveau spectacle. Et voilà, on a parlé de Basile, on a parlé de Néa, et Paloma, c'est quand même quelqu'un qui. Voilà, si tu... comment tu l'as inventé?
Paloma, c'est la meilleure amie de Néa, donc Néa qui est archiviste, et Paloma, qui elle est une artiste, je dirais une femme de théâtre. Elle écrit des spectacles, mais elle danse en même temps qu'elle déclame ses textes. Et Paloma, elle écrit complètement différemment de moi.
Ah, voilà.
C'est un peu mon idéal, c'est mon idéal de la créatrice, quoi, la créatrice idéalisée pour moi, Paloma. C'est-à-dire
C'est-à-dire...
qu'elle est dans un truc où elle est limite à la limite de l'écriture automatique. Elle est dans le complet lâcher prise, d'ailleurs, ce qui lui permet des expériences un peu étranges. Là, on est un peu dans le fantastique avec Paloma. Et pour moi, c'est un peu, oui, la créatrice idéalisée qui lâche prise, qui a aucune autocensure, et qui laisse venir les choses, et qui rature parce que c'est moins bien, qui voilà, qui on a le tout le travail de Paloma. On voit comment elle écrit ses spectacles, en fait, mais elle travaille pas comme moi parce que
Non.
c'était pas c'est je j'ai une fascination pour les gens qui se jettent dans la page blanche comme ça, sans filet, et qui font sortir. Y a Katie, notamment Katie Stewart, qui travaille comme ça. Moi, ça me fascine complètement parce que je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je prends des notes, je fais des trucs pendant 6 mois avant de me lancer dans un roman. Enfin,
Oui.
voilà. Donc, oui, Paloma, c'est mon idéal de la créatrice.
Après, elle a du mal à aboutir parce que c'est pas évident de se
Oui,
jeter dans le
parce
vide
que.
non plus.
Elle a du mal à aboutir parce que on se pose la question de savoir si. Alors, je vais pas trop spoiler le
Non,
roman, mais
non, 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 ne spoil
la
pas
voilà.
parce
Non,
qu'il
donc,
faut le lire, c'est
mais
en
il
plus très,
y
très,
a,
très sympa.
y a, y a une grosse question au niveau de la planète. Quels sont les effets de cette planète, en fait?
Oui, c'est ça qui... Parce que pour cette planète qui, donc, on peut juste dire qu'effectivement, elle émerge du côté de Jupiter, je crois, c'est ça, donc quand même assez loin de la Terre, et on ne sait pas comment elle est venue. Et il y a aussi un autre personnage, d'ailleurs, qui est intéressant, c'est le personnage de Citive. Si tu peux nous en dire un petit peu, sans spoiler.
Alors, Citive, c'est une chercheuse en astrophysique, astronomie, qui est celle qui découvre par hasard la planète. Elle était de garde un soir dans l'observatoire astronomique, et elle est en train de faire des tests sur le télescope, et hop, malheureusement, elle tombe sur la planète. Et du coup, la planète porte son nom. Il l'appelle Citive parce que c'est elle qui est la première à s'être manifestée. Pour la découverte de cette planète. Et elle a une théorie particulière, Citive, et elle n'est pas du tout en accord avec ses collègues. Et j'aime bien ce personnage aussi parce que c'est quelqu'un qui essaye de prouver par tous les moyens. Elle a été discréditée par ses collègues parce qu'elle a une hypothèse concernant la planète Citive, dont personne ne veut entendre parce que c'est une hypothèse qui aurait des conséquences inimaginables, en fait. Et donc, elle est là dans la nécessité de vouloir à tout prix prouver son idée. Elle a passé les 7 dernières années à essayer de poser des équations sans arrêt, essayer de prouver ce qu'elle veut prouver. Et oui, c'est un personnage qui s'accroche, qui est en proie à l'adversité quand même, mais qui est quand même consulté par le gouverneur Basile, et qui du coup est confronté à ses collègues avec lesquels ça se passe pas très bien du tout, quoi. Voilà, c'est un personnage, oui. J'aimais l'idée d'avoir une scientifique et une artiste
Voilà,
dans
bah,
les
en plus,
personnages
c'est très
principaux.
réaliste parce qu'effectivement, c'est, je crois que c'est comme ça que ça se passe dans le monde
Alors,
de la recherche.
je connais le monde de la recherche, donc voilà. Il y a des choses qui. Et puis, je sais que c'est. Enfin, je sais comment avance la science, et elle avance comme ça par le débat et par le. Voilà. Et il y avait. Je pense qu'aussi, il y a une. des éléments par rapport au Covid, parce que finalement, le roman est né pendant le Covid. Il y a une chose, moi, qui m'a perturbée, parce que justement, je connais beaucoup de scientifiques et j'ai travaillé dans le domaine. Pendant le Covid, ce qui m'a perturbée, c'est de voir la science se faire en direct à la télévision. Ce qui normalement se fait dans les bureaux et les labos, je l'ai vu à la télévision et je me suis dit, les gens vont pas comprendre.
Oui.
Les gens, ils ont besoin qu'on leur apporte une information claire à un instant T. Et là, les scientifiques étaient en train de se prendre le bec, ce qu'ils font dans les labos tout le temps, hein, à la télévision. Et là, je me suis dit, je regardais ça, je me suis dit, les gens, ça va plutôt les paniquer qu'autre chose, quoi, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, on sait rien, que c'est pas normal, les scientifiques, ils devraient savoir. Mais la science, la recherche scientifique, c'est différent de la science déjà. La science, c'est ce qui est établi. La recherche scientifique, c'est ce qui tend à générer la science. Et la science, elle avance par des tâtonnements et par des gens qui se prennent la tête dans des labos, en fait. Hein. Faut,
Oui, c'est vrai que qui remettre comment dire les travaux les uns des autres en question, parce que quand on lit un livre en scientifique, on a déjà tout l'historique à chaque fois, et tu as raison, je pense que c'est pas que ça a paniqué les gens, c'est que ça a quelque
ils n'ont pas
part
compris ce qui se passait.
décrédibilisé, oui, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'une démarche scientifique.
Oui.
Et on voit un résultat qui est assez terrible finalement, l'histoire des vaccins,
Bah
tout ça.
ouais, moi ça m'a beaucoup brassé à l'époque. J'en parlais beaucoup avec un ami qui travaille dans les sciences, quoi. Moi, ça m'a énormément inquiété. Je me suis dit, mais là, on est en train de. Oui, comment la science va. Derrière va s'emporter quoi. J'avais l'impression qu'on la malmenait en direct parce que ouais parce qu'on était les gens avaient besoin de l'info mais la science elle se fait pas dans la il y a rien de linéaire quoi. Elle se fait dans la confrontation, elle se fait dans un jour oui le lendemain non. C'est le fruit d'un consensus et d'énormément de débats, quoi.
Oui, qui peut bouger en plus, mais
Oui,
ouais,
il peut y
suivant
avoir une
l'année.
idée qui remet tout en question, voilà, quoi. Et je pense que les gens, à ce moment-là, ils avaient surtout besoin de quelque chose de rassurant, et il n'y avait rien de trop rassurant, quoi.
Non, non, puis la façon dont ça a été géré, ça n'a pas été extra non plus.
Oui, on va pas donner de nom pour
Oui.
pas, enfin voilà quoi, mais on a tous en tête quelques trucs, voilà. Bon.
Alors revenons à Visite.
Oui, on a un
Donc
peu digressé.
oui, mais pas tant que ça, parce que finalement le
Oui,
roman
c'est
amène,
l'un des thèmes. Oui,
oui, le
il y a beaucoup
roman
de
amène des
scientifiques.
choses, oui.
Il y a beaucoup de scientifiques dans le roman. Il y a Citive et puis il y a toute l'équipe d'expédition, l'équipe d'Anna ou
La mission, oui.
qui est la mission d'exploration, où c'est que des scientifiques, en fait. Il y a un psychologue qui est là pour essayer de veiller au bien-être de l'équipe, et donc finalement ne fait pas trop son boulot, mais tous sont des scientifiques, oui. Et pareil, confronté là aussi à la recherche scientifique, c'est-à-dire à l'inconnaissable, à le un jour c'est oui, le lendemain on ne sait pas, il n'y a rien qui va, enfin voilà.
Oui, là, pour le coup, c'est très déstabilisant. Ça fait partie des aspects très forts aussi, parce qu'on lit, puis dans un roman classique, on finit par avoir un certain type de réponse, qui peut être souvent décevant d'ailleurs, parce que beaucoup d'auteurs qui n'ont pas beaucoup d'imagination quand ils partent sur les aliens. Mais là, il y a tout un mystère. Il y a plusieurs mystères, en fait, dans ce livre, aussi bien scientifique, sociétal, psychologique, littéraire. Enfin, et je reviens là-dessus, son point fort, c'est d'avoir réussi, enfin que tu aies réussi, puisque c'est toi qui l'as fait, à faire fonctionner ensemble un univers qui est très, très terre à terre. On est vraiment dans la terre, on va chercher à manger, on mange ce qu'on trouve, on surveille, on s'inquiète pour. Ce que tu appelles les écosses, qui sont en fait des espaces naturels, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc des lieux
Oui,
qu'on essaye de préserver, parce que malgré tout, ce n'est pas neutre. Toute la pollution, quand même, c'est quand même toujours des milieux qui restent fragiles. Et en même temps, on a les moyens d'envoyer une équipe explorer une planète totalement inconnue. Et ça fonctionne bien, finalement.
Et on arrive à le faire en 7 ans en plus, ce qui paraît être un délai. Donc ça veut dire qu'ils ont mis énormément de moyens au niveau international pour le faire, quoi. Et oui, c'est le. En fait, on se rend compte que tout est planifié. Ils planifient tout, les ressources et tout. On imagine qu'ils ont planifié effectivement le voyage jusqu'à Sitiv, l'exploration de la planète, et que ça. Ils n'ont pas renié la technologie ni la science.
Tout à fait, oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le
Ils
livre.
ont réfléchi à comment faire que la planète puisse être préservée tout en gardant enfin voilà, un niveau de technologie, mais elle est utilisée de façon, on va dire, qui porte pas préjudice à la planète ni aux gens. Voilà.
Oui, et puis il y a cette démarche. Alors ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est le livre de Becky Chambers, je pense que tu dois le connaître,
Oui.
Apprendre aussi par bonheur. Et en fait, il y a ça, effectivement, ce côté, on fait attention, on va dans un univers tellement différent qu'on n'arrive même pas à le conceptualiser, et on fait attention à ne pas le... Pas l'abîmer, si on peut
Oui, ils
dire.
sont l'équipe d'Anna sur la planète, sur Citive, ils sont limités dans leur capacité à acquérir des informations et des données sur la forme de vie qui est sur la planète, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de comportement invasif. Ils peuvent pas forer, ils peuvent prélever un peu, mais pas trop. Enfin, du coup, ils ont leur vis-à-vis de la forme de vie sur Citive, ils ont la même démarche qu'ils auraient devant une forme de vie sur Terre, en fait. Donc, ils sont aussi un peu limités dans leur capacité à comprendre, parce qu'ils peuvent pas être, voilà, peuvent pas prendre un des arbres entre guillemets de Citive, le couper et puis le disséquer. Ils sont, enfin voilà, très respectueux du vivant.
Qui est nouveau quand même, parce que avant, quand on allait explorer, je parle de
Ah
la
oui,
Terre,
ouais oui.
on ne se demandait
Oula.
pas si les Indiens
Oula.
d'Amérique l'ont vécu dans leur chair,
Oui,
hein,
mais.
c'est sûr.
Il y
On
a, je
mélangeait
pense.
tout, il n'y avait pas de...
Oui, et là, en plus, bon, ils sont devant une forme de vie qui ressemble à des arbres, mais ce que nous, le comportement qu'on avait avec d'autres êtres humains, où on remettait en question leur humanité, finalement, eux, ils sont en face d'arbres et ils sont pas à ne pas imaginer qu'ils puissent être en face d'une forme de vie intelligente, en fait.
Oui, c'est moi, le
Et j'ai
mystère,
trouvé
oui.
ça aussi une mise en abyme, ouais, quelque chose qui nous met par rapport aussi à notre relation à la fois aux autres êtres humains, mais aussi aux autres créatures vivantes, quoi. Les pas prendre comme oui, ne pas être agressif, violent, colonisateur, destructeur, enfin toutes ces ils sont pas du tout dans cette démarche quand ils arrivent sur la planète.
Non, et d'où en fait la lenteur de leur découverte, et qui correspond aussi finalement à une certaine lenteur de la civilisation sur Terre, parce que quand on doit refabriquer quelque chose, prendre le temps d'aller chercher des pièces par-ci, par-là, on va pas vite. Donc il y a...
Alors c'est pareil, c'est une terre de contraste, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois limités par les ressources, donc effectivement il y a une lenteur par rapport à notre société, et en même temps les penseurs quantiques, ils sont extrêmement rapides, d'ailleurs ils sont tellement rapides que on comprend pas trop ce qu'ils font en fait. C'est un des autres mystères
Oui, tout à fait.
du roman, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la forme de vie extraterrestre, donc on comprend rien, et puis il y a aussi les quantes, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent, qu'est-ce que c'est que le flux, on sent qu'il y a des choses qui comment dire, qui il y a des au niveau du temps, qui sont pas les mêmes, que les Kant n'ont pas la même appréhension de l'espace et du temps que celle d'un être humain, quoi. Donc, oui, il y a cet aspect-là aussi qui est très, aussi amusé, là, quand même.
En tout cas, c'est un livre qui est, enfin, que je le dis tranquillement, qui est vraiment un très beau roman, qui est bien écrit. C'est aussi poétique, parce que finalement, c'est pas évident de recréer une langue et puis de la rendre poétique. Enfin, pour toi, ça l'était, ça a été du travail, mais tu l'as très bien réussi. Et donc, moi, je vous dis, enfin, je n'ai qu'une chose à dire, il faut le lire. C'est un roman de science-fiction, mais qui est très, très. Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit le roman qu'on lise forcément à la plage en attendant d'aller boire un verre. C'est vraiment un roman qui nous prend et qui.
Il demande un petit effort au début,
Au début, oui, mais après,
ouais, voilà. Après, une fois qu'on a passé le qu'on s'est un peu acclimaté à la langue, c'est surtout l'histoire de plusieurs personnages, la description d'une société, l'histoire de plusieurs personnages et comment une société réagit face à un changement énorme dans sa perception du monde en fait et comment chaque personnage aussi réagit par rapport à un tel changement. Donc oui, c'est un livre sur le changement de paradigme et c'est un livre sur l'humain, l'humanité.
Et puis la beauté, de la nature, de la terre,
Oui,
finalement, oui.
la beauté
C'est.
de ce qu'on a, de la presse, enfin l'aspect c'est très précieux en fait. La nature et eux vraiment leur la richesse dans ce futur la richesse c'est pas l'argent c'est pas les billets la richesse c'est le vivant quoi
Oui, tout à fait, oui,
et
ça c'est.
c'est vraiment voilà moi ça m'a fait du bien de l'écrire j'espère que ça fera du bien aux gens de le lire.
Je pense. Alors, pour terminer notre émission, à chaque fois, je demande à l'auteur, l'autrice, les projets. Est-ce que tu es en train d'écrire déjà quelque chose ou est-ce que.
Alors, je suis pas encore en phase d'écriture, mais ça ne saurait tarder là. Je pense que je vais peut-être commencer la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ça fait un certain nombre de mois que je prends des notes, voilà. Et il y a un roman
Ce serait un
qui
roman, alors.
ce sera un roman, oui. Oui. J'ai écrit
Toujours en
plusieurs nouvelles,
science-fiction.
toujours en science-fiction et dans un univers assez proche, toujours sur l'écologie. Peut-être avec des aspects plus géopolitiques et voilà sur des questionnements par rapport à la démocratie. Voilà, c'est en cours d'élaboration. J'ai un projet de podcast littéraire, d'écrire des textes sur de la musique contemporaine. Voilà, c'est mes deux gros projets. Après, j'arrive quand j'ai des commandes, j'écris des nouvelles. Donc là, j'en ai écrit plusieurs. On verra, elles doivent sortir normalement en fin d'année. Oui, donc, dans les projets, il y a le roman, il y a le podcast littéraire. Et puis, depuis longtemps, mais bon, ça, c'est pas un projet, c'est plutôt un souhait, quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, une revue. Voilà.
En
Mais là, c'est
littérature.
vraiment en littérature, science-fiction et science, sur l'axe science, en fait. Mais là, c'est un projet qui est beaucoup plus gros et je sais pas si, en termes de temps, en termes je ne sais même pas à qui m'adresser pour faire ça, donc voilà. Mais voilà, le
C'est un
roman
projet au
et le
long cours.
podcast. C'est un projet, voilà, à long
C'est au
terme.
long cours. Oui, donc c'est un projet au long cours et ton roman, c'est on peut espérer d'ici 2 ans le lire. Oui, c'est
Oui,
ça,
d'ici 2 ans,
2 ans.
oui. Oui, là, parce que 3 ans, 1 an de grammaire, je crois que je l'ai fait une fois, je ne vais peut-être pas le faire systématiquement. Après, je ne sais pas si ce roman, il pourrait s'inscrire dans l'univers de visite, un peu en biais, on va dire. Mais bon, c'est un one shot et c'est pas du tout la même histoire. Mais on peut retrouver peut-être quelques personnages de visite.
Ah oui, d'accord. Bah, écoute, on va attendre le roman.
Voilà, bon,
Hein.
voilà, 2 ans à peu près, 2025, peut-être début 2026. Voilà. Ça dépendra de l'éditeur aussi.
Oui, ça, c'est des
Enfin,
choses
moi,
qu'on tient pas.
non, moi je peux tenir la date où je donne mon manuscrit, mais je n'ai aucune idée de la date à laquelle il va paraître, quoi.
Bon, j'espère qu'on va pas trop attendre quand même. En tout cas, on va déjà lire Visite. Et puis tous les autres, si on ne les connaît pas tous, surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles où on peut découvrir dans ta
Oui, juste
bibliographie.
avant, j'avais écrit Résolution, qui était paru
Oui.
La Volte aussi. Et après, des nouvelles, oui, j'en fais. Ça dépend. J'en fais un peu moins ces dernières années. Mais oui, j'en ai écrit une quarantaine ou une cinquantaine maintenant.
Ça fait quand même une œuvre en termes de nouvelles. Ça fait
Oui.
un beau corpus. Voilà, bah écoute, on va s'arrêter là.
Oui, bah
Je te
merci.
remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, en tout cas
Oui,
de.
bah, j'étais très contente de parler avec toi de visite. Je trouvais ouais, très bien. Je suis très contente.
Merci, moi aussi, parce que c'est vrai que c'est un livre effectivement très surprenant quand on quand il est avec tes autres livres de science-fiction sur ton étagère, tu te dis tiens, hop, et puis, il y a une profondeur qu'on trouve dans entre guillemets, n'importe quelle littérature, n'importe quel genre littéraire. Ce n'est pas spécifique à la science-fiction. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancré, finalement, dans les inquiétudes actuelles. Et c'est aussi plein de solutions. Et puis, c'est surtout une belle histoire. Après
Oui, j'ai
tout,
essayé de
on
garder
lit pour
le.
une belle histoire.
Après, enfin, je pense que les artistes ont des sortes d'antennes réceptrices de l'air du temps, de ce qui. Là, c'est effectivement, Visite, c'est un peu en concentré de toute l'anxiété du moment et le transformer pour en faire quelque chose d'un peu plus positif, quoi. Voilà.
Voilà, bah c'est réussi, je pense. En tout cas pour
Merci.
Visite. Merci. Bah écoute, au revoir, l'ICAM, et puis à
Oui,
très bientôt
à très
alors.
bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.